Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakiza, la présentation de cette édition du mercredi 7 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Le président haïtien Jovenel Moïse assassiné tout ce matin à son domicile à Port-au-Prince.
C'est un commando avec des gens qui parlaient espagnol, anglais, qui ont perpétré cet assassinat dans la demeure du président de la République.
Dans la foulée, le premier ministre intérimaire a déclaré l'état de siège dans tout le pays. Et soit-il dit, 27 morts dans les récentes manifestations contre la monarchie absolue. Covid-19, l'OMS avertit d'une augmentation des cas en Méditerranée orientale. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné ce matin à son domicile. Un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Les précisions de John Lindon.
L'annonce de l'assassinat a été faite par le premier ministre par intérim Claude Joseph, qui a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Selon lui, le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol, ajoutant qu'ils ont attaqué la résidence du président de la République. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 sur une promesse de développement de l'économie du pays et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Actif dans plusieurs domaines économiques, dont l'exploitation de bananeraies, il n'avait alors quasiment aucune expérience en politique au moment de son élection et était très peu connu de ses compatriotes. Haïti, pays le plus pauvre des Amériques, est gangréné par la violence politique et une criminalité très élevée.
Après l'annonce de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, les réactions au niveau national et international n'ont pas tardé. Le point avec Arzuma Compaoré.
Aux premières heures de la matinée, les rues étaient en grande partie vides à Port-au-Prince, la capitale, même si certains commerces ont été pillés. Pour Edmond Suplice-Bosile, président du parti Fusion des sociodémocrates haïtiens, parti d'opposition, c'est le choc.
Je pense que l'opposition n'était pas préparée pour ça. Le pays n'était pas préparé pour remplacer Jovenel Moïse aujourd'hui. On savait qu'il était illégitime et qu'on le considérait comme étant un président de fait. La démocratie ne peut rien tirer comme profit à ce crime. Il y a un premier ministre qui est là qui n'a pas de légitimité non plus, celui qui est là. Il y en a un qui est nommé qui n'a pas été installé. Nous sommes dans un flou et dans un vide. C'est pour ça que c'est très, très compliqué aujourd'hui la situation du pays.
Suite à l'annonce de la mort de Jovenel Moïse, la République dominicaine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit choqué par un acte odieux. La Maison-Blanche a, elle, qualifié de terrible et de tragique l'assassinat du président haïtien. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est dit préoccupé par le risque d'une spirale de violence. Le président en exercice du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur français Nicolas de Rivière, a déclaré que les membres du Conseil se disent profondément choqués et préoccupés par le sort de la première dame, Martine Moïse, qui a également été blessée par balle dans l'attentat.
La République dominicaine a ordonné mercredi la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti. Selon le journal Listín Diario, le président dominicain Luis Abinader a convoqué les officiers supérieurs de l'armée pour évaluer la situation. Les hommes armés qui ont enlevé plus de 100 élèves d'un lycée dans le nord-ouest du Nigeria ont demandé des dons pour pouvoir les nourrir. On révélait mercredi les responsables de l'établissement scolaire. Les ravisseurs ont pris contact avec l'école, assurant qu'ils détenaient encore 121 élèves, contrairement au premier bilan faisant état de 140 lycéens enlevés, a déclaré Wakili Madougou, le proviseur adjoint du lycée Bethel, dans la localité de Chikun, dans l'état de Kaduna. Ils ont aussi demandé de la nourriture, du riz, des haricots, de l'huile pour pouvoir nourrir les adolescents pendant leur détention, a-t-il ajouté, indiquant que les responsables de l'école étaient en discussion avec les agences de sécurité pour déterminer leur stratégie d'action. Le sort de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage, était toujours en suspens mercredi. La police a affirmé dans un dernier volte-face qu'une arrestation d'ici la fin de la journée reste possible. Le jugement de la Cour constitutionnelle la semaine dernière stipule que Jacob Zuma était condamné par une décision sans appel. Il devait se constituer prisonnier d'ici dimanche soir ou alors la police avait ordre de l'arrêter d'ici mercredi minuit. Mais l'ancien président a obtenu que la Cour réexamine sa sentence et a réclamé que son arrestation soit suspendue. La décision doit être rendue vendredi par le tribunal de Pietermaritzburg, dans l'est du pays. L'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée qui a recueilli 572 migrants en Méditerranée, a réclamé à l'Union européenne mercredi un port sûr pour les débarquer le plus rapidement possible. D'ici vendredi, ils vont manquer de rations alimentaires pré-emballées et de médicaments et certains passagers sont épuisés et déshydratés après 3 jours en mer, assure l'ONG. 27 personnes ont été tuées dans des heurts au cours des récentes manifestations anti-monarchie dans le royaume des Swatini, a déclaré un responsable du gouvernement. Le point avec Nathalie Barge.
Le ministre du Commerce, Manko Bakumalu, a précisé que la plupart des décès datent de la semaine dernière. La force a dû être utilisée et dans certains cas, des coups de feu ont été échangés et il y a eu des victimes, a-t-il poursuivi, ajoutant que certaines personnes ont été piégées dans des bâtiments incendiés. Depuis la semaine dernière, des centaines de jeunes ont pillé et brûlé des magasins ciblant des propriétés appartements au Roam, Souati 3. Ils ont répliqué avec des jets de pierre contre les tirs à balles réelles de la police. Selon le média sud-africain New Frame, 2 journalistes couvrant la contestation ont été détenus et torturés par les forces de sécurité. Pretoria, Washington et Londres ont appelé le royaume à la retenue. La communauté de développement de l'Afrique australe a envoyé une mission d'enquête. Un calme précaire est revenu dans le pays où un couvre-feu a été imposé, l'armée déployée et l'accès Internet réduit.
Père de l'indépendance en Zambie, l'ex-président Kenneth Kaunda, mort en juin à l'âge de 97 ans, a été enterré mercredi à Lusaka dans un cimetière réservé au chef de l'État face au siège du gouvernement. La veille, des membres de sa famille avaient saisi la justice pour contester le lieu de son inhumation, réclamant en vain qu'il soit enterré conformément à ses souhaits près de son épouse Betty Kaunda, morte en 2012. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du Nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Il est mort paisiblement le 17 juin dans l'hôpital militaire de Lusaka où il avait été admis pour une pneumonie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4 millions de morts, a annoncé mercredi l'OMS, ajoutant que le bilan réel était très certainement plus élevé en raison notamment de la propagation du variant Delta. La pandémie est toujours dans une phase très dangereuse, a averti son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le point avec Nanit Talani.
En Tunisie, le bilan a été porté à plus de 15 000 morts pour 12 millions d'habitants et plus de 600 personnes sont actuellement en réanimation. L'Indonésie, qui a pour la première fois franchi la barre des 1 000 décès quotidiens, a élargi à l'ensemble du pays ses restrictions face à la pandémie. Au Japon, à 2 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques, le gouvernement s'apprête à déclarer un 4e état d'urgence à Tokyo qui devrait couvrir toute la période des Jeux olympiques prévue du 23 juillet au 8 août. Les autorités locales ont aussi annoncé aujourd'hui l'annulation du relais de la flamme olympique sur la voie publique dans la capitale. La Chine fait état d'un foyer grandissant dans une petite ville frontalière avec la Birmanie. En Inde, 12 ministres ont démissionné, dont celui de la santé, critiqué pour sa gestion du Covid-19. L'Australie prolonge le confinement en vigueur depuis fin juin à Sydney. En France, Le gouvernement appelle de nouveau à une vaccination massive qui est la carte maîtresse pour faire face au risque d'une quatrième vague rapide avec la hausse du variant Delta qui représente plus de 40% des contaminations dans le pays. Face à la situation mondiale, le FMI exhorte les pays du G20 à agir au plus vite en faveur de nations les plus pauvres confrontées au risque d'un double choc dévastateur. L'OMS a souligné hier qu'il manquait toujours près de 17 milliards de dollars pour financer la lutte contre la pandémie.
L'ex-président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il lançait une plainte collective contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons en les accusant d'être responsables d'une censure illégale inconstitutionnelle. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
L'autorité du canal de Suez a signé mercredi un accord pour percevoir des indemnisations de la part du propriétaire japonais de l'Ever Given qui avait bloqué la voie navigable pendant près d'une semaine en mars dernier. La cérémonie de signature de l'accord, diffusée en direct par la télévision égyptienne, s'est tenue sur les rives du canal de Suez après le départ du porte-conteneurs géant d'une capacité de 200 000 tonnes qui avait perturbé fortement le commerce maritime mondial. La Banque centrale du Zimbabwe a annoncé mardi l'introduction d'un nouveau billet de banque de 50 dollars zimbabwéens. Il s'agit de la plus grosse coupure à ce jour, mais ce billet ne vaut que 60 cents de dollars américains. C'est insuffisant pour acheter une miche de pain. Après moult tensions et revirements, 131 pays représentant 90% du PIB mondial se sont engagés à taxer de manière plus équitable les multinationales. Cet accord, négocié le 1er juillet sous l'égide de l'Organisation de développement et de coopération économique, y compris la Chine et l'Inde, n'attend que la validation des grands argentiers des pays du G20. Ils se réunissent vendredi et samedi à Venise.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'Italie est en finale de l'Euro. Elle s'est qualifiée au tir au but aux dépens de l'Espagne au stade de Wembley à Londres. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Après des buts de l'Italien Federico Chiesa à la 60e et une égalisation de l'Espagnol Alvaro Morata à la 80e, lequel a manqué son tir au but. L'Italie a finalement réussi 4 tirs contre 2 pour l'Espagne. La nationale retrouve la finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis l'Euro 2012. Dimanche à Wembley, l'Italie rencontrera le vainqueur de la seconde demi-finale qui se joue ce soir entre l'Angleterre et le Danemark. D'une coupe à une autre, la Copa América aura bien sa finale de rêve Brésil-Argentine. Après un score de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les Argentins se sont qualifiés pour la finale face à la Colombie. Au tir au but, 3 tirs réussis contre 2. La grande finale samedi au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro sera surtout un duel de stars entre Messi et Neymar, anciens coéquipiers au FC Barcelone qui n'ont jamais remporté de titre majeur avec leur sélection nationale. Pour le septuple Ballon d'Or argentin, ce sera l'occasion de rompre la malédiction après 4 finales perdues. Mondial 2014 et Copa América 2007, 2015 et 2016. Transfert, l'international marocain Achraf Hakimi, latéral polyvalent de l'Inter Milan, a signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, annonce le club parisien. Le montant du transfert est estimé par la presse à environ 60 millions d'euros. Le latéral ou ailier droit de 22 ans, formé au Real Madrid, a été sacré champion d'Italie en mai avec l'Inter. L'international marocain, 31 sélections et 2 buts marqués, vient renforcer l'arrière-garde de l'équipe parisienne où l'Italien Alessandro Florenzi n'a pas pu s'imposer. NBA, Phoenix domine Milwaukee à l'usure dans le match numéro 1 de la finale. Bagassi Koura.
Oui, le retour de Gianni Antetokounmpo n'aura pas suffi. Les Phoenix Suns se sont imposés chez eux face aux Milwaukee Bucks 118-105 au terme du premier match de la finale. Emmenés par une équipe virtuose, les Cavaliers de l'Arizona ont imprimé une pression offensive continue tout au long de cette première manche. Le trident habituel Paul Booker Ayton a répondu présent. Le meneur Chris Paul a livré un match étincelant avec à la clé 32 points lorsque Booker a inscrit 27 points et DeAndre Ayton 22 points et 19 rebonds. Malgré plusieurs tentatives de recoller au score, les Bucks n'ont jamais pu trouver en deuxième mi-temps l'énergie qu'ils ont proposée lors des deux premiers quarts-temps. Les Suns tenteront d'enchaîner sur un second succès à domicile jeudi avant que les deux équipes ne mettent le cap sur Milwaukee. Et ce sera dimanche.
Merci, Bagassi.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Inquiétude et interrogation en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse à son domicile privé tôt ce matin. Selon le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, l'attaque a été perpétrée par des hommes armés et a déclaré l'état de siège. La Maison-Blanche parle d'un événement tragique. Sur la situation sur place, Abdulrahman Dia a joint à Port-au-Prince le directeur de la radio RFM, Rothschild François Junior.
Aussi difficile jusqu'à cette minute parce que le Premier ministre Haï Claude Joseph qui vient de prendre la parole, qui vient de s'adresser à la nation, il a répété un petit peu ce qu'il a dit ce matin, à savoir que c'est un commun de haut avec des gens qui parlaient espagnol, anglais, qui ont perpétré cet assassinat dans la demeure du président de la République et blessé la première dame de la République qui reçoit actuellement des soins. Et donc c'est tout ce qu'il a dit. Il a annoncé que le président est décédé, mais on ne peut pas tuer ses idées et que les auteurs de cet acte seront arrêtés, punis conformément à la loi.
Comment est-ce possible? La résidence privée du président n'était pas assez bien protégée?
C'est la grande question que l'on se pose ce matin, à savoir comment un commando a pu entrer aussi facilement chez un président de la République et l'assassiner. Et effectivement, le président de la République, sa résidence privée se trouve dans les hauteurs, dans un endroit qui s'appelle Pèlerin 5. Donc c'est une rue. Donc je sais qu'il y a des agents de sécurité, il y a un avant-poste de police devant, et le président, il a toujours ses agents de sécurité avec lui, la garde de présidentielle. Donc on ne sait vraiment pas comment ça a pu-t-il arriver que ce commando a pu entrer si facilement chez le président de la République pour l'assassiner.
Et quelle est un peu la situation sur place? Il y a une certaine inquiétude. Comment est-ce que les populations réagissent?
Bon, il y a une grande inquiétude concernant ce qui s'est passé. Pour le moment, les rues sont un peu vides, tout le monde a peur sur ce qui s'est passé, même si le Premier ministre Claude Joseph vient de déclarer que le pays la situation est sous contrôle. Il a décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national et annoncé que la police nationale fera son travail. Mais il y a beaucoup d'appels qui sont lancés à l'endroit de la police nationale pour qu'elle puisse assurer la sécurité des vies et des biens. Il faut dire que ces appels viennent aussi de la part des membres de l'opposition qui ont condamné cet assassinat et qui ont demandé à la police d'assurer la sécurité des vies et des biens et de lancer un appel au calme à l'endroit de cette population.
Alors sur le plan purement institutionnel, donc c'est le Premier ministre qui assure l'intérim, c'est ça?
Oui, le Premier ministre, il a dit tout à l'heure qu'il assure l'intérim, bien sûr, avec le Conseil des ministres. Il a tenu ce matin un Conseil des ministres à l'extraordinaire, et donc suite à l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse. Mais il faut dire qu'il y a un grand problème au niveau des institutions. Le président de la Cour de cassation, donc il est décédé récemment des suites du coronavirus. Le Sénat de la République fonctionne avec seulement 10 sénateurs. Il y a un grand problème institutionnel en Haïti. Il y a beaucoup de questionnements concernant ce qui pourrait se passer sur le plan constitutionnel suite au décès du président de la République. Tout ce qu'on sait, c'est que le Premier ministre Claude Joseph, qui lui pratiquement a démissionné parce qu'il devait être remplacé par un autre Premier ministre qui a été nommé cette semaine par le président de la République, Ariel Henry. Donc il a dit que lui, il a su l'intérim avec le Conseil des ministres. Bien sûr, il y a beaucoup de un peu de flou. Beaucoup de gens se posent la question à savoir qui pourrait devenir président de la République suite à l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse.
C'était le journaliste Rothschild François Junior. Gouvernant par décret depuis janvier 2020 sans parlement et alors que la durée de son mandat faisait l'objet de contestations, Jovenel Moïse avait également mis en chantier une réforme institutionnelle. Un référendum constitutionnel initialement prévu en avril, reporté une première fois au 27 juin, puis à nouveau en raison de l'épidémie de Covid-19, devait se tenir le 26 septembre. La réforme avait pour but de renforcer les prérogatives de l'exécutif. Haïti est gangrénée par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Une situation qui valait à Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. Pour en parler, Nanit Talani a joint Ruben Johannem, activiste et chercheur d'origine haïtienne, joint depuis Minneapolis dans le Minnesota, ici aux États-Unis.
En raison de ce climat sociopolitique qui existe dans le pays depuis bientôt quelques temps, les forces de l'ordre, la justice, n'ont fait aucune intervention dans les cas de kidnapping, dans les cas de meurtre et dans les cas d'enlèvement. Donc, le fait que l'administration ne disait pas mot sur tout ce qui s'est passé, même les manifestations, le silence de l'administration a créé l'atmosphère qui normalement présageait l'événement de la nuit dernière. C'est quand même étonnant, mais on pouvait quand même le prévoir.
Peut-on dire que cette tragédie est liée aux récentes manifestations et à l'insécurité dans le pays?
C'est tout à fait lié. C'est en fait le résultat, c'est le point culminant du climat sociopolitique qui existait en Haïti depuis près de 10 ans maintenant. Mais avec l'administration de Jovenel, le silence que les instances étatiques ont fait ont créé les conditions de possibilité de l'assassinat de n'importe qui, que ce soit le président, que ce soit un prêtre, que ce soit un vendeur ambulant dans la rue. Donc, il n'y a presque aucune raison pour ce qui a trait aux gangs, aux bandits professionnels, d'avoir aucune sorte de crainte, parce qu'ils opèrent normalement sans souci.
Quelles pourraient être les conséquences de cette tragédie pour le pays?
On est devant des points d'interrogation. On ne sait pas quelle sera la réaction de la communauté internationale.
Ruben Johannem, activiste et chercheur d'origine haïtienne, joint depuis Minneapolis dans le Minnesota, ici aux États-Unis. Région du Tigré, en Éthiopie, des centaines de femmes et de filles ont fait état de violences sexuelles de la part de soldats alors que la guerre se poursuit malgré le retrait des troupes gouvernementales. Le reportage à Mekele de Hefa Madoc, qui a rencontré des présumées victimes de viol, le récit avec Claire Morin-Gibourg.
Les histoires sont similaires. Les soldats pénètrent dans les foyers pour demander où se trouve un mari, un père ou un frère et insistent sur le fait qu'ils sont des combattants rebelles. Ils attaquent alors l'épouse, la fille ou la sœur. La VOA s'est entretenue avec des survivantes dont l'identité est protégée pour des raisons de sécurité.
Ils ont pointé une arme sur moi et ont crié « Nous savons que votre père est un combattant. Donnez-nous ses armes. » Je leur ai dit que je ne savais pas où mon mari était parti. Ils ont jeté ma petite fille sur un tapis et trois soldats m'ont violée à tour de rôle. Mon bébé a pleuré tout le temps.
Ces femmes sont également gravement blessées, physiquement et mentalement. Moussi Tesfaye Atsbaha travaille à l'hôpital de référence Haïder.
Vous voyez, surtout chez les femmes qui ont été violées par plusieurs hommes. Quand vous les recevez en consultation, il faut les porter. Elles ne peuvent plus marcher.
Pour Moussi Tesfaye Atsbaha, l'impact réel de ces attaques ne peut pas être mesuré médicalement, car ces traumatismes ruinent des vies, des familles et des communautés entières. La guerre au Tigré a éclaté en novembre dernier. Les combats ont pris une tournure abrupte la semaine dernière lorsque le gouvernement fédéral a déclaré un cessez-le-feu unilatéral et s'est retiré de la majeure partie de la région. Les forces du Tigré disent qu'elles les ont chassées. Mais la crise humanitaire continue au Tigré. On estime que 400 000 personnes souffrent de la famine et que 1,8 million de plus vivent au bord de la famine. Les militants des droits de l'homme affirment que la violence sexuelle généralisée contre les femmes tigréennes fait partie intégrante du conflit qui est toujours en cours. Et à l'hôpital de Mekele, les conseillers disent que seul un petit pourcentage de victimes demandent de l'aide. Mira Redae, de l'hôpital de référence à Idder.
Une survivante nous a raconté que plus de 20 survivantes ont été violées au même moment, mais elles n'ont pas pu venir.
Les victimes ne se manifestent pas parce qu'elles sont piégées dans des zones de guerre, craignant la stigmatisation ou craignant que les soldats qui les ont violées ne les attaquent à nouveau si elles sont signalées.
One of the soldiers came in the room and raped me.
Un des soldats est entré dans la pièce et m'a violée. Je saignais tout le temps, mais après son départ, je n'ai rien dit à ma famille. Je l'ai gardé pour moi, comme un secret.
Cette victime raconte que finalement, avoir pu partager son secret a été un soulagement. Mais les dommages causés à elle-même, à sa fille de 13 ans qui a été témoin, et à sa patrie ne pourront peut-être jamais être réparés.
L'administration Biden a annoncé mardi l'envoi de millions de doses du vaccin Moderna pour le Guatemala et le Vietnam. Il s'était déjà engagé la semaine dernière à donner de 4 millions de doses à l'Indonésie. Mais dans l'ensemble, les États-Unis n'ont pas atteint leur objectif d'envoyer 80 millions de doses au pays dans le besoin d'ici fin juin. Notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Ouida-Kouswara, revient sur les défis auxquels sont confrontés les États-Unis pour aider à vacciner le monde. Le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Deux pays recevront des dons de vaccins américains cette semaine, a déclaré mardi l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
Le Guatemala et le Vietnam recevront des doses de vaccins anti-COVID de l'administration Biden-Harris. Le Guatemala recevra 1,5 million de doses de Moderna et le Vietnam recevra 2 millions de doses de Moderna.
Alors que les Indonésiens se préparaient à une augmentation du nombre de cas, et faisaient la queue pour leur injection la semaine dernière, l'administration Biden a aussi promis au pays 4 millions de doses du vaccin Moderna à expédier via COVAX, le mécanisme de l'ONU pour le partage des vaccins, dès que possible. Les États-Unis se sont engagés à faire don de 580 millions de doses dans le monde. Mais ils n'ont pas atteint leur objectif d'envoyer 80 millions de doses d'ici fin juin. Psaki, attaché de presse de la Maison-Blanche, revient sur les défis.
Parfois, nous devons surmonter des obstacles juridiques. Nous devons surmonter des obstacles réglementaires. Il y a des problèmes en ce qui concerne le matériel nécessaire pour distribuer ces vaccins et il y a aussi des problèmes de transport avec la réfrigération nécessaire. Nous avons donc remarqué que même si nous allions toutes ces doses, comme nous nous y sommes engagés, cela tient en partie au fait que les pays doivent être prêts à les recevoir.
Le défi commence par la détermination du vaccin approprié. La plupart des stocks disponibles aux États-Unis se composent de Pfizer et Moderna, qui nécessitent un stockage ultra-froid que tous les pays ne sont pas prêts à gérer. Krishna Udayakumar est le directeur fondateur du Centre mondial d'innovation en santé.
Une fois qu'ils y sont arrivés, nous devons savoir quelle est la date d'expiration de l'eau que nous avons envoyée. Nous devons savoir, au niveau du pays, s'il existe une autorisation réglementaire pour l'utilisation de ce vaccin particulier et l'importation de ce lot particulier. Et ce n'est vraiment que le début. Nous devons ensuite nous assurer que les vaccins peuvent être stockés au froid jusqu'au dernier kilomètre, que la main-d'œuvre est prête, que les vaccinateurs sont formés et qu'ils peuvent sortir.
Les pays bénéficiaires doivent aussi coordonner avec les différents vaccins qu'ils reçoivent d'autres fournisseurs, notamment COVAX, la Chine et la Russie. Cela nécessite beaucoup de planification et une gestion compliquée de la chaîne d'approvisionnement. Krishna Udayakumar, directeur fondateur du Centre mondial d'innovation en santé.
Il ne devrait pas être surprenant que l'expédition de vaccins soit compliquée d'un point de vue logistique. Et nous sommes en retard. Nous aurions dû travailler là-dessus il y a 6 mois.
Il y a aussi le fait que la plupart des doses de vaccins vont simplement aux pays riches. Joe Biden, président des États-Unis.
D'ici la fin de cette semaine, nous aurons atteint la barre de 160 millions d'Américains complètement vaccinés.
Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont expédié qu'environ la moitié des 80 millions de doses qu'ils avaient l'intention de distribuer d'ici fin juillet.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mandakidza était avec vous à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.